vous dire merci, vous avez bravé malgré tout un métro en panne, de la pluie qui tombe et la cohue de près Noël. Donc, je suis très sensible de vous voir ici ce soir. Malgré tout, c'est un peu tardif comme activité le soir. Donc, pour comprendre cette question de l'islam et les valeurs de la République, j'ai pensé qu'il était intéressant pour nous de parler d'abord de l'islam et des musulmans en territoire islamique d'abord. Hein? Ainsi, par exemple, dans la constitution égyptienne de 1923, article 149, il était dit « L'islam est religion d'État et la langue arabe est sa langue officielle. » Nous ne sommes pas habitués en Occident, et surtout après la Révolution française en ce qui concerne la France, eh bien, à ce genre d'articles dans les constitutions occidentales. Donc, l'islam est religion d'État et la langue arabe est sa langue officielle. Cette même formulation a été reprise telle qu'elle dans la constitution de 1930, dans celle de 1956, sans évolution, et dans celle de 1964, et c'est en 1971 que l'on ajouta en article 2, c'est-à-dire ça prend de l'importance, de la Constitution, je cite, « L'islam est la religion d'État et la langue arabe est sa langue officielle. Et les principes de la charia islamique sont source essentielle de la législation. » Dans la même année 1971, ce deuxième segment de l'article 2 était repris et confirmé dans la constitution de la République arabe unie qui était constituée de l'Égypte, Syrie et Libye, où il devenait l'article 6, et à partir de cette date, la phrase citée à l'instant est établie dans toute constitution arabe, donc pour tout le monde arabe. Lors d'un référendum en 1982, le texte primitivement formulé en 1971 est devenu, je cite, « Les principes de la charia islamique sont la source essentielle de la législation. » Primitivement, c'était les principes de la charia islamique sont source essentielle de la législation. Là, il y a une espèce de restriction, c'est la source. Nous sommes en 82. Ce seul article de détermination a déclenché dans les pays arabes et dans certains pays islamiques une importante vague de revendications réclamant l'application immédiate de la charia dans toute société du Dar al-Islam, c'est-à-dire du territoire islamique. Certains même ont considéré qu'appliquer la charia faisait entrer le patrimoine culturel arabe dans la pensée universelle contemporaine. D'autres se sont fait plus extrémistes et ont prétendu que la société contemporaine était infidèle, athée et ignorante, et qu'elle ne reviendrait à la raison que si on appliquait la charia en en faisant la seule loi en vigueur en tout domaine. Ce très bref aperçu historique de l'avènement de la charia dans le territoire islamique révèle clairement une certaine concomitance, et je dirais même quasi mécanique, avec l'apparition de l'islamisme en Occident au milieu des années 1980. On se souvient de la marche des beurs des Minguettes à Lyon, avec à leur tête le père Christian Delorme. Puis au milieu des années 90, la levée d'interdiction du territoire français de Tariq Ramadan, réclamée et obtenue par les pères Gilles Couvreur du SRI, Service de Relations avec l'Islam de l'Épiscopat français, et le même Christian Delorme. Ils obtiennent, ils exigent, au nom de la liberté religieuse et de la liberté de l'expression religieuse, la levée d'interdiction du territoire français de Tariq Ramadan. Dans les 15 jours qui suivaient cette levée, Tariq Ramadan avait un séminaire qu'il donnait sur toute la France, dans les grandes villes de France, à Toulouse en particulier. On s'est retrouvé avec Tariq Ramadan à la Cato de Toulouse parce que l'université publique refusait d'abriter ces séminaires par peur des meutes sur les lieux. Ce retour à l'islam authentique des origines s'est fait selon le processus progressif, comme vous avez vu ensemble, nous avons vu ensemble, d'un mode de déplacement qui a changé profondément la nature de l'islam militant contemporain. Un déplacement de l'eschatologie à l'historicisme, de l'homme de l'islam spirituel au révolutionnaire radical, du sens culturel et cultuel de sa civilisation à son sens littéral fondamentaliste. Un développement dialectique a suivi qui a abouti à ce que des versets répressifs éclipsent totalement les valeurs spirituelles que pouvaient rencontrer ou déduire des musulmans dans leurs livres sacrés. Cette application réclamée de la charia en terre d'islam n'était pas sans poser des difficultés pour certains musulmans, en particulier les musulmans vivant dans leur pays d'origine. Des intellectuels musulmans ont tenté en vain de moderniser l'approche des textes fondamentaux en les contextualisant selon une méthodologie souvent naïve, mais où l'intention du moins était là. Ainsi, le juriste égyptien Mohamed Saïd al-Ashmaoui écrit dès 1978 un livre intitulé, traduit, « Les fondements de la loi islamique » où, tout en s'affirmant conservateur, il s'engage dans cette voie. Le livre n'est pas sans défaut, mais son intérêt est dans l'effort déployé pour offrir à ses co-religionnaires une autre possibilité de lecture du Coran. Ainsi, par exemple, commentant les versets 39-40 de la sourate 22 et de la 2-190-194, il affirme que le terme « qatala », tuer, qui y figure, ne signifie pas tuer, comme le pense le musulman ordinaire, mais seulement se battre, car le contexte de ces versets indique que les musulmans ne doivent se battre que contre ceux des polythéistes qui les ont combattus et contre ceux qui les ont chassés de la Mecque afin de reprendre leurs biens abandonnés. Le but étant que la religion soit définitivement celle d'Allah. C'est ça à l'origine, c'est ce que dit Ashmaoui. Le combat doit s'arrêter lorsque l'agression prend fin, dit-il. Ce qui veut dire que le musulman ne doit agresser personne s'il n'est pas agressé. Donc on est là, c'est parfaitement clair. De surcroît, la riposte du musulman ne peut en aucune manière être plus violente que l'agression elle-même. Par conséquent, les musulmans ne peuvent lever de jihad ni contre les juifs, ni contre les chrétiens, car ceux-ci croient au livre céleste. Donc le jihad ne peut être que défensif en cas d'agression ou de menace. Il ne signifie pas davantage convertir tous les hommes à l'islam. Je répète les paroles d'un musulman appelé Ashman, dès 78. Poursuivant sa contextualisation des versets jihadistes, l'Ashmaoui affirme que le verset 923, qui ordonne de combattre les infidèles, ne veut pas dire tous les infidèles de la terre, mais seulement ceux qui sont à proximité des musulmans. Dans le Coran, dit-il, la permission donnée aux musulmans de faire la guerre a une raison d'autodéfense et n'est jamais pour agresser. C'est lui qui le dit. Parce que les commentateurs des mêmes versets de ce même Coran disent autre chose. Mais c'est Ashmaoui quand même, on peut lui savoir gré de penser ainsi. Il rappelle à toute fin utile quelques versets incitant les musulmans à la paix et à la modération qui existent réellement dans le Coran. En dépit de la naïveté d'une telle lecture du texte sacré de l'islam et malgré son caractère si peu dangereux ou coercitif, elle a valu à l'auteur de finir sa vie reclus dans son appartement, avec fenêtre condamnée et garde du corps à sa porte, après qu'il ait survécu à plusieurs attentats. Nous avons rencontré ce monsieur il y a une dizaine d'années. Il était d'une grande amertume et il avait assisté, puisqu'il était le conseiller du président Sadat, il avait assisté à l'assassinat de Sadat et ça l'avait beaucoup marqué et on ne le sentait jamais guéri de cette épreuve. Le cas de l'Ashmaoui, dans le simplicisme de son discours, met à mal les slogans servis de façon incantatoire du genre « ce n'est pas le vrai islam ». Ça, ce n'est pas, c'est pas ça l'islam. C'est une mauvaise interprétation du Coran, nous dit-on. Pas d'amalgame, ni de stigmatisation. Les musulmans ne sont pas des jihadistes. Tous les musulmans ne sont pas des jihadistes. Etc. L'exemple de cet auteur montre bien que l'interprétation proposée est à la hauteur de la conscience qu'il a de certains textes sacrés de l'islam et de son histoire belliciste qui nourrissent et formatent tout niveau d'islamiste ou jihadiste. Or, les jihadistes d'hier et d'aujourd'hui s'inscrivent totalement dans le sillage du prophète et de ses combattants. Le premier étant présenté par Allah lui-même dans le Coran comme un beau modèle à suivre, 33-21. Les responsables et officiels musulmans refusent ou ont peur de reconnaître ces faits. Quant aux musulmans vivant en Occident, qui ne peuvent pas faire moins que de condamner les monstruosités des jihadistes, ils se taisent sur les persécutions, exécution, discrimination infligée en terre d'islam de tout temps aux non-musulmans, sans oublier les femmes. Dans la réalité, l'islam en Occident se révèle nettement comme perméabilité croissante entre paroles et pratiques communautaristes explicites d'une part et dérives violentes et actions meurtrières de l'autre. En outre, en Occident, le terrorisme jihadiste a généré un frère jumeau qui est le terrorisme de la pensée unique. Des situations inacceptables, des revendications communautaires, des dépassements outranciers et révoltants semblent être acquis et la plupart de nos intellectuels, de nos médias et de nos politiques s'en accommodent par ignorance des textes fondamentaux. Au pire, par choix idéologique. Plus souvent, les deux. La partie a été gagnée lorsque les musulmans, ayant réussi à s'assurer le rôle victimaire de réprouver dans chacune des sociétés d'accueil où ils se trouvent, beaucoup des acquis, lois et décrets sont devenus quasi irréversibles, imposant un état d'esprit à la nation. Bien plus, et avec le temps, les lois de ces sociétés sont devenues flexibles, à géométrie variable. En Belgique, depuis plus de 15 ans, l'on élabore des lois pour aider les Belges à s'intégrer dans les secteurs urbains à majorité islamique. La mairie de la capitale belge offre un prix au meilleur récitant, Qari, c'est un titre très particulier, du Coran lors de compétitions publiques dans la pure tradition islamique, sur la place, à Bruxelles. Que peut donc exiger encore le monde civilisé dans ces sociétés d'accueil où d'importantes communautés islamiques vivent agrippées à un univers mental d'un autre âge? Comment et avec quels mots demanderons-nous aux musulmans de l'islam modéré dont ils se réclament que c'est aujourd'hui qu'il est urgent qu'ils reconnaissent ces sources violentes et intouchables de leur doctrine où s'abreuvent les djihadistes de la planète? Certes, d'aucuns diront que l'islam n'est pas que cela. Bien sûr. En plein au Sénat, une sénatrice a levé la main pour dire « Qu'est-ce que vous faites, madame ?» J'expliquais seulement les textes. « Qu'est-ce que vous faites, madame, de l'islam civilisation, la grande civilisation islamique ?» On ne parle pas de ça. On n'a rien dit contre la grande civilisation islamique, on l'étudie même. Hein? Mais ce n'est pas ça le souci, c'est l'islam religion qui est le problème. Donc le problème est que l'islam est aussi cela. Hein? Quand on vous dit ce n'est pas que cela, oui, bien sûr que ce n'est pas que cela, personne ne dit le contraire. Mais il est aussi cela, pour rester cohérent avec l'annonce qu'il fait de lui-même. La réflexion de l'islam modéré doit porter sur la détermination de ces éléments du texte sacré de l'islam pour s'interroger enfin, qu'y a-t-il là au juste pour attirer les djihadistes de toutes les nations qui s'y reconnaissent et y trouvent justification, devoir religieux, argument et ordre divin? Or, dans les flots du quasi defensio ad quae illustratio de chaque musulman, presque rien n'est jamais dit de cet aspect introspectif. Ne serait-ce que par allusion, jamais. Et les rares qui l'osent ne sont pas écoutés. Je l'ai cité la dernière fois, je le reprends, un certain Boualem Sansal, algérien courageux, vivant en Algérie et non pas écrivant en France pour les Français, pour calmer les esprits qui pourraient choses, donc et pour prêcher un islam modéré et islam des Lumières. Donc Boualem Sansal, lui, dit la vérité et il est musulman et algérien. Mais il vit en Algérie et il écrit pour qui veut l'entendre, pour dedans comme pour dehors. Mais il n'est pas écouté, évidemment. L'autre antienne, tant utilisée qu'elle a fini par sédimenter dans l'esprit des Occidentaux, est sans doute l'assertion concernant les deux djihads, majeurs et mineurs. Aux émissions islamiques de la télévision du dimanche matin, juste avant la messe, pour qui veut se ressourcer, c'est régulièrement qu'on nous présente des musulmans et pas ou des musulmans ou bien des islamophiles qui sont portés comme ça à l'écran et qui vont nous expliquer que le djihad, ça, c'est une déviation, c'est une mauvaise chose en islam. Il ne faut pas vous arrêter, il y a des belles choses qu'il faut relever quand même et ils vont décrire ça. Ainsi, par exemple, parmi ces beautés, c'est la différence entre djihad majeur et djihad mineur. Donc, le premier, très valorisant, est strictement spirituel puisqu'il désigne le combat que livre le musulman dans son cœur contre le mal. Il est mis en avant de façon systématique dans le discours islamique, et le second désigne le combat militaire que les musulmans tendent toujours à minorer comme étant antinomique aux vraies valeurs de l'islam. Or, sur les 41 occurrences de la racine jihada dans le Coran, si 19 incitent en général à mener combat pour Allah, 2 ont un sens négatif qui reste vague. En revanche, 6 ont un sens explicitement militaire avec en outre des formules accolées qui en amplifient la portée. Il suffit de lire le Coran. 9:41, 4:95, 96, etc. Et 2 autres occurrences exhortent à lutter contre les mécréants et les hypocrites. Les jihadistes rappellent haut et fort ces versets dans leur action. C'est seulement au 9e siècle, avec la fin des premières conquêtes islamiques, qu'est apparue l'interprétation sur le jihad majeur, mais sans qu'il n'ait jamais supplanté l'aspect guerrier initial. On peut admettre la possibilité pour les musulmans de greffer la théorie du jihad majeur contre soi-même, mais il est illégitime d'affirmer que le jihad coranique est uniquement spirituel. Nombre de hadiths corroborent le sens militaire du jihad. Hadith, c'est les traditions prophétiques. Donc, et pour ne citer que le plus célèbre, je cite, l'envoyé d'Allah a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Celui qui le confesse n'a rien à craindre de moi et ne peut être frappé dans sa personne ni dans ses biens que conformément au droit de l'islam. Ce jihad mineur est d'autant plus valorisé que le martyr, qui se dit shahid en islam, est celui qui meurt en combattant pour Dieu, et non l'homme supplicié pour sa foi, comme c'est en christianisme. On ne va pas rentrer dans l'histoire comparative, mais quand même, quand Saint-Louis a demandé à l'Église de déclarer son frère mort pendant les croisades, le déclarer martyr, l'Église a refusé. Il est mort en croisade. Il n'est pas mort pour sa foi. C'est en défendant les pèlerins, pour la défense de Jérusalem, etc. Donc, tandis qu'en islam, ce n'est pas la même chose. On est déclaré martyr, avec même rétribution au paradis, tout à fait comptable et concrète, que sont les houris, c'est-à-dire une quantité de vierges à disposition du croyant pour comme récompense de ce sacrifice qu'il fait au jihad, donc combattre pour Allah. Donc l'histoire islamique a connu nombre de soufis s'adonnant au combat militaire depuis des monastères forteresses appelés ribat. Il y a une dynastie en Espagne islamique qui s'appelait les Almoravides. Ce sont Almorabitoun. C'est ça le mot arabe qui... c'est la dégradation du mot arabe qui a donné Al-Murabit, c'est Al-Murabutin. Donc, ce sont des soufis qui combattaient et menaient jihad depuis les forteresses qui étaient les leurs. Un étudiant avait dit, un étudiant à l'université publique, mes étudiants étaient surtout des musulmans. Et un m'a dit, oui, mais en christianisme, il y avait les Templiers aussi. J'ai dit, oui, il y avait les Templiers, c'est vrai. C'est vrai, mais les Templiers ne s'appuyaient pas sur l'Évangile et le livre de le livre sacré du christianisme, hein, tandis que les Almoravides et les soufis djihadistes. Les soufis djihadistes, qui a quand même, ce sont les soufis qui ont islamisé jusqu'à la fin du XIVe siècle, islamisé l'Égypte, épée en main et dans des conditions des plus cruelles et des plus violentes. Donc eux, c'est parce que c'est l'ordre divin. Il n'y a pas d'ordre divin pour les Templiers, alors que pour les djihadistes musulmans, c'est l'ordre divin qu'ils exécutent, c'est tout, auquel ils obéissent en fait. Donc, tous les versets, sans exception, sont vécus dans la même réception. Cela aussi, il faut en tenir compte en islam, avec la même acceptation du principe. Le musulman ne peut choisir entre deux versets et ne peut reprendre Allah dans sa parole. C'est ce qui a bloqué la révélation et a fait de la révélation islamique une révélation sans progression. Ce qu'ils faisaient du temps du prophète, ils le feront encore pendant des siècles s'ils ne révisent pas et ils ne font pas subir au texte coranique la critique historique et la critique des textes et tout l'outil auquel c'est finalement la Bible s'est soumise, c'est vrai au XIXe siècle, mais attention, même au Moyen Âge, il y avait déjà quand même une critique du texte sacré, une critique théologique, mais une critique, donc qui n'existe pas en islam. Depuis 14 siècles, ils sont avec le même texte, parce que c'est une révélation qui est l'incarnation de la parole divine, la révélation de la parole de Dieu incarnée en livre appelé Coran. Donc, ces deux mesures sont déterminantes dans la praxis que les musulmans veulent pour le monde. Dans un contexte de grande confusion, morale et politique, on ne dira jamais assez l'importance de bien raisonner. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale, disait Pascal. Sans doute pensait-il à la morale et de l'homme et du groupe. En un temps où, confondant résolument l'humain et l'humanitaire, l'idée et l'idéologie, les sociétés occidentales ont renversé les valeurs universelles, générant des aberrations où un sinistre assassin marche derrière le cercueil de sa victime puis réclame des félicitations pour tant de bonté, où l'outragé exprime sa gratitude à son offenseur pour lui avoir permis de mesurer les trésors de pardon et de tolérance que recèle son cœur. Ce qui me conduit directement à penser que les valeurs de toute république sont basées sur l'ensemble des droits et des obligations de l'homme citoyen, de l'homme. Il nous intéresse donc en l'espèce de connaître cursivement, là je vous ai concentré le propos, ceux de l'homme en islam. Il appartient ensuite à chacun d'en déduire les conclusions qui s'imposent à lui. L'examen de l'expression des droits de l'homme en islam requiert que l'on rentre dans un univers mental et dans des catégories de pensée qui ne sont point ceux dans lesquels l'occidental a été formé et auxquels il est accoutumé. Cet exposé voudrait aider à se faire quelques idées des principes, des orientations et des applications que la Ligue du monde islamique entend donner aux droits de l'homme en islam. Pour cela, je m'appuie sur un texte circonstancié étayé de nombreuses références coraniques, je vous ferai grâce, rassurez-vous, ou à la tradition prophétique, publiée sous cet intitulé dès 1979 au nom de la Ligue. La Ligue du monde islamique, c'est un peu l'ONU, si vous voulez, du monde islamique. Il faut le savoir. Chaque pays dit islamique est membre de la Ligue de cette Ligue du monde islamique. Pas que des Arabes. Ça peut être aussi bien des Malais, des Philippins, que sais-je moi, des Chinois. Pakistanais, bien sûr, et les Arabes du monde arabe. L'établissement d'un tel texte est justifié par ses rédacteurs, je cite, « parce que beaucoup de musulmans sont ignorants de la question et parce que l'Occident adresse à l'islam des interrogations à ce sujet. Les déviations innovatrices ne manquent pas chez les premiers, et l'aube du XVe siècle islamique devrait enfin illuminer le second. » Ici, le texte précise que l'application de la loi, charia, islamique, réalise le bonheur, et qu'elle permet à la demeure de l'islam, la dar al-islam, d'être une demeure de paix et de justice. Dieu n'a-t-il pas agréé l'islam comme religion parfaite ? Effectivement, dans le Coran, Dieu agrée l'islam pour l'humanité comme religion parfaite au 5, 3 et au 2, 85, qui règle les rapports de l'homme avec ses semblables. D'emblée, le texte de la Ligue donne un exemple extrême. Dieu lui-même a requis la peine du talion dans le Coran, et c'est le mérite des wahhabites, nous dit la déclaration donc des droits de l'homme en islam. Cette déclaration nous dit que c'est le mérite des wahhabites d'en avoir restauré l'application en Arabie, même si leurs ennemis s'en moquent. Et là, citation coranique à nouveau, 4, 89, etc. Mettre à mort qui a tué, couper la main de qui a volé, lapider qui a commis l'adultère, flageller qui boit de l'alcool, constitue une, citation, « excellente dissuasion pour tous les candidats au crime », comme dit le Coran au 4.65. On voit par ces rappels qu'à chaque idée ou élément correspond une référence coranique ou un hadith. Ça, c'est clair. Ainsi, par exemple, l'Arabie saoudite n'applique la peine de mort que lorsque le crime est dûment établi, nous dit la déclaration. Ce faisant, elle ne connaît que l'ordre et la paix sur son territoire. La Ligue du monde islamique affirme que devant la faiblesse ou la faillite des déclarations trop humaines, déclaration de l'homme de tout le monde, devant la faillite et la faiblesse de ces déclarations trop humaines, il convient de voir comment le Coran et l'islam assurent, je cite, les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination raciale. C'est en affirmant qu'il n'y a pas d'autre prééminence que celle de la piété, toujours le Coran, l'homme cité 70 fois dans le Coran et les humains cités 300 fois sont des absolus, sans aucune discrimination entre les sexes. Il le dit. 30, 21, 3, 21. La supériorité des juifs et des chrétiens est refusée. 5, 18. Ainsi que toute solidarité dans le péché, ou selon les couleurs de la peau. Je rappelle que en bon arabe, les Africains noirs sont appelés abid, c'est-à-dire esclaves, de tout temps, depuis le début de l'islam. Et encore aujourd'hui, ils parlent de abid. Il n'existe qu'une seule supériorité, la piété. Et là, je reviendrai dessus, si on a le temps. La piété, c'est ça, c'est le concours. En islam, il y a un concours à la piété. Qui est, je suis plus pieux que toi. Ça s'appelle al-wara. C'est une notion à part en théologie que l'on étudie et pour laquelle on fait des articles particuliers dans l'encyclopédie de l'islam, etc. Hein? Donc, une seule supériorité, la piété, qui est la fidélité à l'islam. On précise quelle piété, ça va de soi. Mais des préférences sont reconnues en fonction des missions à accomplir, mariage ou profession. Si par exemple, une femme, elle devient égale de l'homme si elle est plus pieuse que lui. Et comment elle va montrer sa piété? Eh bien, si ce n'est en observant littéralement, à la lettre, l'enseignement coranique, bien sûr. Pour la Ligue, les droits de l'homme doivent être fondés sur une vision coranique des êtres et des choses. Quels en sont le mécanisme et la logique? Je pose la question. Cette même déclaration nous dit que Dieu a créé l'homme et lui a donné une place privilégiée dans le cosmos. Même s'il se révèle faible et pécheur, il est le vicaire de Dieu sur terre. Tout ça, c'est bien. D'où ces droits en islam récapitulés ici en bref. Donc, on en conclut que cet homme, il est musulman, avant toute chose. S'il ne peut réclamer des droits que s'il est musulman. On va voir pourquoi. Droit à la vie et condamnation de l'homicide et du suicide, d'où la valeur vitale du talion. Hein? Toujours, là je vous fais grâce de... je ne peux pas m'arrêter pour les références coraniques, mais c'est dans le Coran. Droit à la dignité et à la grandeur d'une vie engagée dans l'action islamique, bien sûr. Droit à l'égalité entre tous, sans caste ni parti, sans racisme ni confessionnalisme, toujours en islam. Droit à toutes les libertés promues par la loi islamique. Liberté des personnes. Ainsi, si l'islam a accepté et organisé le statut d'esclavage, ce fut pour en réduire peu à peu les méfaits et développer par là des formes de libération. Liberté de penser avec exaltation des valeurs d'intelligence. Liberté de croyance avec refus de toute crainte. Liberté d'opinion dans les limites de la bienséance prévue par la loi islamique. Liberté d'agir, etc. en termes. Droit à l'enseignement et à la science. Droit à refuser l'obéissance vis-à-vis des ordres contraires à la loi islamique. Et là, nous arrivons. Ça veut dire que tout musulman vivant ailleurs qu'en terre d'islam, régi par la loi islamique, eh bien, il a le droit de refuser l'obéissance aux contraintes d'une loi non islamique. Le raisonnement est là. Présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas prouvée. Droit à la protection de la vie privée. De là, il explique pourquoi on couvre les femmes, pourquoi on doit, les hommes doivent sortir, comment dirais-je, décents, en tenue décente. Les shorts, c'est très mal vu. Hein, c'est très mal vu. Quand nous avons visité la frontière entre le désert de Jordanie et qui est lié au désert du Hijaz, enfin de l'Arabie Saoudite, pour visiter des sites archéologiques avec mon époux, Eh bien, la première chose que m'a sorti l'ambassadeur de France, il m'a dit « Attention à vos tenues, hein. Pas de short pour monsieur, pas de mini-jupe pour madame. » Il ne risquait pas d'avoir de mini-jupe, mais c'était quand même c'était indiqué. Donc, c'est pour dire, au cas où on tomberait sur une patrouille saoudienne. Donc, ceci est appelé droit. Droit à la participation à l'activité politique pour la consultation. Et là, j'y arrive. Ça explique pourquoi il y a des partis qui se constituent maintenant, qui sont faits que de musulmans dans un pays laïque comme la France. Vous êtes au courant, je vous apprends rien. Hein ? C'est un droit pour un musulman, sachez-le. Donc, droit à la participation à l'activité politique où se trouve le musulman. Droit à la propriété privée, protégée et limitée tout à la fois. Et là aussi, ça explique pourquoi les musulmans aisés achètent de plus en plus des biens immobiliers en Occident, parce que c'est comptabilisé comme appartenant à l'islam et comme un dar islam, c'est-à-dire à partir où on passe le seuil de cette maison, on est en dar islam, c'est-à-dire dans une demeure de l'islam. De même pour la prière. Partout où il y a un hadith, une tradition prophétique qui explique que partout, chaque fois qu'un musulman s'agenouille, fait ses prières à un endroit, cet endroit est déclaré islamique. Hein, c'est une mosquée. Et je me souviens, quand pendant un an, il a fallu recevoir les disciples de Tariq Ramadan dans la salle Tolosa, à l'heure de la dernière prière, ils sortaient et ils se diffusaient dans les salles de cours. Et un an après, quand Tariq Ramadan fut viré, eh bien, les gentilles demoiselles et les gentils messieurs venaient réclamer, parce qu'il était à l'école une telle ou une telle dans le quartier. Il n'y a pas de mosquée, donc c'était la salle de cours où il a prié un jour l'année dernière qui était halal pour lui maintenant. Donc tout cela est, je veux dire, si je vous donne ces exemples, hein, si je vous donne ces exemples qui sont authentiques, hein, c'est pas, j'allais dire, c'est pas des suppositions ou je ne subodore pas, c'est pour dire que les termes et la construction même de cette déclaration des droits de l'homme en islam a un sens réel. Donc, droit également qui est droit à la responsabilité strictement personnelle en toute chose, droit à la protection des faibles et des indigents islamiques. L'islam assure aussi la promotion de l'homme en lui interdisant vin et jeux de hasard. Ça, c'est interdit dans le Coran. Et en condamnant l'adultère et les anomalies sexuelles. D'où, vous avez vu, quand Morsi, en Égypte, a tenu le pouvoir pendant le temps que des frères musulmans, il a fait la chasse. La première chasse qu'il a faite, c'était aux chrétiens et aux homosexuels. Aussi simple. C'est lui qui a massacré le plus grand nombre et des uns et des autres. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça, maintenant, je souris un peu. Quand on parle de Sisi qui est dictateur, ça m'amuse un peu. On voit que les gens, dans leur fauteuil, derrière leur télé, abreuvés de BFM TV, eh bien, ne savent rien. Ne savent rien. C'est là qu'on voit que l'ignorance gouverne la vie de beaucoup de nous. Donc l'islam assure aussi la promotion de l'homme contre le vol, la fraude dans les poids et mesures, ça fait un peu quand même Moyen-Âge, contre l'usure, c'est interdit, donc il le protège contre l'usure. Quant aux droits de la femme, la Ligue affirme l'égalité foncière avec ceux de l'homme. Oui, oui, il le dit. Même origine, même constitution, nous dit le Coran. Même dignité, nous dit le Coran toujours. Elle reçoit le même appel à la foi et à la responsabilité personnelle. C'est ce que je vous ai dit. Elle n'aura de cesse, pour avoir un minimum de dignité, d'être plus pieuse que lui, que l'homme. C'est uniquement à ce prix-là qu'elle peut affirmer sa dignité propre personnelle. À ce sujet, je me permets, et c'est très gênant de se citer, mille pardons, j'ai consacré une étude, un essai particulier sur le statut de la femme en islam, que j'ai publié dans le dernier livre « Islamologie et monde islamique ». Donc, rien que pour la femme. Il y a tout un... sur la famille, la femme, etc. Donc, là, ça sera plus développé, puisque c'est très important. Dans le Coran lui-même, par exemple, pour vous donner juste un exemple, le mot « femme », il a deux pluriels. Deux pluriels. En arabe, en bon arabe, il y a le pluriel irrégulier et un pluriel régulier. Ce qu'on appelle le collectif. Il y a un pluriel collectif. Comme vous dites, il y a une pomme, des pommes et il y a de la pomme. De la pomme, c'est beaucoup de pommes, mais... C'est collectif, de la pomme. En matière de femmes, c'est pareil. Il y a une femme, il y a des femmes, et il y a de la femme. Et on voit progressivement, dans le Coran lui-même, au cours des versets arrivés, la femme tout court, on ne sait pas, c'est encore vague, mais elle commence à avoir de la dignité, quand elles deviennent, quand les femmes deviennent croyantes, c'est-à-dire musulmanes. Car le mot musulman, c'est le mot croyant est réservé aux musulmans, comme vous savez. Les autres ont un autre, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, les autres ont d'autres appellations. Ce sont des gens du livre, ce sont des chrétiens, des juifs, comment on les appelle, des associateurs pour les chrétiens à cause de la Trinité. Et ce sont des polythéistes, des païens, etc. Donc, une femme, c'est une femme tout court, en attendant, pour sa dignité, d'être une croyante. Une fois qu'elle est passée à croyante, à ce moment-là, elle fait partie des femmes. C'est An-Nisa. À ce moment-là, c'est le pluriel qui donne une dignité aux croyantes. An-Niswa, qui est le collectif de la femme, eh bien, lui est réservé à toutes les femmes qui n'est pas encore déterminée et qui n'est pas encore définie en islam. Vous voyez, donc ça va très loin. Et malgré cela, la déclaration des droits de l'homme en islam nous dit que la femme a la même dignité puisqu'elle reçoit le même appel à la foi islamique et à la responsabilité personnelle dans cette foi. Même soumission aux peines et sanctions de la charia. Et là, ils mentent, parce que les textes de droit islamique disent qu'en cas d'adultère, on doit lapider les deux. C'est un péché pour les deux. On n'a jamais entendu parler d'hommes lapidés. On lapide toujours la femme. On dirait Victor Hugo et sa maîtresse. C'est fou. Et, or, ici, ils nous disent même soumission pour hommes et femmes aux peines et sanctions de la charia. Même droit à l'obéissance des enfants. Ça, oui, les enfants, normalement, en islam, l'enfant doit obéir autant à la mère qu'au père. On constate que en Occident, les enfants n'obéissent plus à la mère, quelquefois au père, et au mieux qu'ils peuvent, ni l'un ni l'autre. Oui. Et j'ai entendu un jour dans un hôtel, j'étais en pays islamique pour un colloque, et je regarde la chaîne islamique de Iqra, ce sont les islamistes du Qatar qui financent la chose, où le type sort et il y a une question qui lui est posée, le mufti qui est là. Et il répond, oui, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un territoire pervers. Et la loi de l'islam doit régénérer un territoire pervers où les enfants n'obéissent plus, comme dit l'islam, ni au père ni à la mère. Vous voyez comment les choses sont, je veux dire, l'argument est tourné. De même, la même déclaration, ils ont même obligation de commander le bien et d'interdire le mal. Et là, on est sur quelque chose de très important, puisque les djihadistes disent qu'ils ne font que appliquer la 971 et pas si, mais il y a beaucoup de versets qui parlent du djihad comme étant l'exécution de l'ordre divin qui leur disent qu'il faut obliger le monde, il faut commander le bien et puis interdire le mal au monde entier. Et là, les djihadistes, elles sont aussi bien femmes ou hommes. Donc effectivement, là oui, la femme, elle est l'égale de l'homme dans ce cas-là, puisqu'ils vont faire un concours à celui qui sera le plus djihadiste des deux. Même liberté dans les activités économiques, ça c'est vrai. Mais parce qu'ils prennent comme exemple la première épouse du prophète, qui est Khadija, qui était une grande femme d'affaires. Elle était richissime, elle l'a aidée au début de sa vie. Et donc, toute bonne musulmane aspire à imiter la première épouse du prophète. Donc les différences secondaires que la loi islamique met entre l'homme et la femme proviennent des psychologies et des capacités très variées inhérentes à l'un et l'autre sexe, nous dit la déclaration. Pour ces raisons, toujours la même déclaration, il nous explique, la femme ne peut ni diriger l'État ni participer aux assemblées consultatives. La part de l'homme est le double de la sienne en matière d'héritage. Ça, c'est dans le Coran. Son témoignage en justice ne vaut que la moitié de celui des hommes. Quand l'homicide est involontaire, le prix du sang, à diya, on appelle ça, est réduit de moitié si la victime est une femme. Désolée, mesdames. L'homme a la direction de la famille. Il a droit à avoir 4 épouses s'il pratique l'équité entre elles. D'où les problèmes que nous avons vécus il y a quelques années seulement de ces maris algériens qui avaient épousé des filles non islamiques et qui sont repartis chez eux avec les enfants. Et les mamans françaises sont allées faire le siège de l'ambassade de France à Alger, mais sans résultat. Car en Algérie, c'est la loi islamique dans la Constitution qui prévaut. Et les enfants appartiennent au père, jamais à la mère en islam. À ce sujet aussi, j'ai consacré un essai, en particulier une étude sur les mariages islamo-chrétiens dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure en islamologie. Donc là aussi, ces mariages islamo-chrétiens, c'est quelque chose d'assez pervers aussi, quelque part. Car en islam, un homme a le droit d'épouser une non-musulmane, mais une musulmane n'a jamais le droit d'épouser un chrétien, par exemple. Ils obligent le non-musulman, donc le chrétien ou le juif, rarement le juif, mais le chrétien surtout, ils l'obligent à être circoncis. Il faut qu'il y ait un tas de choses à proclamer la shahada devant des témoins à la mosquée du quartier et à proclamer sa conversion publiquement pour qu'il puisse épouser la jeune fille de son cœur. Donc là aussi, ce n'est pas innocent. Si je vous donne des exemples, c'est pour dire que tout ce qui est dit dans cette déclaration des droits de l'homme en islam, eh bien, a un sens et a une portée dans la vie et la pratique des musulmans, surtout hors de leur territoire, hors de leur demeure en islam. De ce fait, en tout cas, il explique que l'homme, il pratique l'équité, il a le droit de pratiquer l'équité, il a droit à 4 femmes s'il pratique l'équité entre elles, 4, 3 et 129, vu qu'il éprouve des besoins irrépressibles et que les statistiques prouvent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Sic dixit. Il le fait. Sic. De ce fait, l'islam est la première religion à avoir limité la polygamie. Oui. Le christianisme n'ayant aucun texte clair sur la question et la polygamie ayant été acceptée par l'Église jusqu'au XVIIe siècle, sic. Là, peut-être qu'on peut expliquer un peu. Je pense que le texte se fait indirectement l'écho de la légende selon laquelle l'Église aurait douté que les femmes aient une âme. Il faut sans doute chercher l'origine de cette légende dans un incident. Chercher donc l'origine de cette légende dans un incident survenu au concile de Mâcon, en 585, où un évêque connaissant mal le latin prétendit que le terme « homo » ne désignait que l'homme et non la femme. Ses confrères lui rappelèrent que c'est « vir » qui ne désigne que l'homme, tandis que « homo » désigne à la fois l'homme et la femme, comme dans la Genèse, on ne va pas citer. Voilà. Dieu créa l'homme. Aucun concile ni aucun texte chrétien n'a jamais prétendu que la femme n'avait pas d'âme, pour commencer. Mais pour un musulman, lui, il voit que le début de l'histoire et ça suffit. Là aussi, il y a quelque chose qu'il faut signaler au sujet de la polygamie. C'est l'interprétation de ces versets concernant la polygamie en islam, et qui ça serait un peu long maintenant. J'ai combien de temps encore? Autant qu'on veut. Oh, ben, c'est Noël vraiment, c'est bon. Donc la polygamie selon les pays islamiques, ainsi par exemple au Moyen-Orient, dans des pays développée par rapport au reste des autres pays comme le Liban, les jeunes musulmans ne pratiquent jamais la polygamie, bien que ce soit autorisé dans leur religion, hein, dans leur croyance. Ils ne le pratiquent pas pour des raisons essentiellement économiques, oui, et puis une perception de la famille moderne. C'est-à-dire, une famille, c'est l'homme, la femme et les enfants qu'il faut élever correctement, etc. En général, ce sont des musulmans qui ont pris leur distance à l'égard de, la, de l'islam, de leur croyance héritée, et ils ont réduit, ramené l'islam à une morale universelle, valable et passe-partout un peu. Donc, c'est ce qui est le plus courant. En revanche, j'ai connu au Sénégal des musulmans qui, eux, pratiquent la polygamie, mais avec, j'allais dire, avec zèle. Car le verset qui indique la polygamie dit, par exemple, Allah vous a autorisé à épouser une, deux, trois et quatre. Mais le verset ne s'arrête pas comme cela. Le verset finit par « Et tout ce que votre main droite peut atteindre. » Et oui, il parle aux hommes. Et le bon musulman sénégalais, souvent un mouride, donc un soufi, lui, il interprète la chose comme ce que sa main peut atteindre, ce sont les concubines ou les filles épousées comme en mariage temporaire, appelé également mariage de jouissance, c'est-à-dire on épouse une fille pour 6 ou 7 mois ou 8 mois, puis après on divorce. C'est un contrat. Le mariage en islam, c'est un contrat, il n'y a pas de sacrement. Donc, le bon Sénégalais, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Et même pas dans les bashkous, couches, non. En face de notre maison, notre appartement, il y avait un ministre de la décentralisation. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il décentralise ce ministre dans un pays comme le Sénégal. Ça, c'est autre chose. Lui, il avait les 4 appartements, dans chaque appartement il y avait une femme avec les enfants qui vont avec. Il n'avait que 4, mais souvent le directeur des huiles, le sieur là-bas, que nous connaissions bien, nous racontait que régulièrement il avait des ouvriers qui venaient le trouver pour lui demander une augmentation parce qu'il veut se marier avec une 4e femme. Il veut augmenter sa famille. Il ne disait rien d'autre. Je veux augmenter ma famille. Et donc, ça posait des problèmes parce que ce directeur nous disait, je faisais figure d'empêcheur d'application religieuse de la loi. Donc à 4 on ne s'arrête pas, car pour le Sénégalais c'était Dieu a dit, pour faire comme Dieu a dit, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, et l'homme ordinaire se retrouvait avec 9 femmes, hein, en additionnant à l'infini. Cette histoire de polygamie continue encore à empoisonner le progrès dans ces pays. C'est pour dire aussi pourquoi nous réclamons tous la révision de ces textes fondateurs de l'islam pour le bien des musulmans eux-mêmes, avant les problèmes qu'ils créent aux autres dehors, pour leur bien intérieur, chez eux, pour commencer. Parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils se déplacent ? Eh bien, ils se déplacent, ils voyagent avec leurs problèmes, ils ne laissent pas leurs problèmes derrière. Vous me comprenez ? Donc là aussi, c'est un problème à part. L'homme seul a le pouvoir de répudier, comme vous savez, mais suivant des règles précises et après avoir exercé patience et réprimande et tenté une conciliation suivant les règles du Coran, allant jusqu'à frapper la femme pour la dissuader de recommencer ses bêtises. Le document traite ensuite des droits de l'enfant en islam, et là je voulais vous parler d'autre chose encore. On va, puisque aujourd'hui c'est Noël, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc cette même déclaration, encore une fois, les déclarations des droits de l'homme est inhérente aux valeurs d'une république, comme je vous ai dit. C'est pour ça que je m'attarde sur celle qui est propre à l'islam. Elle est officielle, elle est présentée, et ils n'ont pas reculé d'un pas. Je ne pouvais que vous le présenter. Donc le document traite des droits de l'enfant en islam et il souligne, et c'est ça le premier souci pour lui, et ça explique pourquoi la multiplication maintenant en terre non islamique encore, des écoles coraniques, des écoles islamiques, de la création d'écoles attenantes aux mosquées, de réclamer que ce soit reconnu et financé par le gouvernement. Enfin, c'est vraiment des problèmes réels qui sont soulevés actuellement. Donc, les problèmes, il soulève les problèmes de l'enfant dans les sociétés européennes et américaines, en toutes lettres, c'est dit, où la désintégration familiale est très avancée. Ils ont peur pour leurs enfants. Dans ces pays que sont européens et américains, eh bien, la famille est désintégrée. Donc, ils ont peur. Ils rappellent avec force les mérites des règles coraniques et de la tradition islamique. Là, ils donnent deux longs hadiths. Ils souhaitent la tenue d'un congrès de l'enfance arabe et islamique. Ils s'inquiètent des enfants des musulmans qui émigrent en Occident. Et ils se soucient des enfants des familles islamiques ou domestiques, nourrices et chauffeurs, sont des personnes étrangères à notre langue et à notre foi. Oui, parce que les familles islamiques, souvent, achètent des esclaves, soit philippins, sri lankais, indiens, etc., qui ne sont pas des musulmans nécessairement. Ils sont achetés pour la main-d'œuvre. Un jour, on m'a donné les tarifs. Et donc, ce sont ces domestiques qui s'occupent des enfants. Et là, la déclaration s'inquiète pour les enfants musulmans dont les nourrices ou les domestiques sont non musulmans. Et il dit, étrangère à notre langue et à notre foi. L'islam décharge l'enfant de toute responsabilité avant son émancipation juridique, qui est 18 ans, et protège efficacement les orphelins, nous dit le Coran. Le même document analyse les droits de l'homme à l'ombre de l'éducation islamique. Et cette déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, comme celle de la Révolution française, n'est valable que pour l'homme européen. Il précise. L'homme blanc, un peu plus haut, il a dit qu'il n'était pas raciste. Mais l'homme blanc, il précise. Discrimination raciale, guerre coloniale, droit de veto à l'ONU sont autant de trahisons pour cette déclaration, qui est humaine pour eux. Alors que leur déclaration En islam, elle est d'origine, évidemment, elle s'appuie sur tout ce qui est ordre divin. Cette discrimination raciale, guerre coloniale, etc., eh bien, sont autant de trahisons qu'il faut à tout prix éviter en terre d'islam. Donc, ces droits de l'homme à l'ombre de l'éducation islamique, comme je vous ai dit, crée des problèmes actuellement pour toutes les minorités islamiques en Occident. Puisque l'éducation que dispensent ces pays européens et américains ne correspond pas aux besoins de l'enfant musulman du monde islamique. Les antiques systèmes d'esclavage organisés par la Grèce et Rome, nous dit la déclaration, ainsi que le judaïsme ségrégationniste et le christianisme de l'Inquisition ont trahi les droits de l'homme, comme les idéologies contemporaines que sont le marxisme et le communisme. L'existentialisme, le pragmatisme et le structuralisme, sikh. L'islam, par contre, s'est toujours révélé le champion des droits de l'homme et du dialogue interconfessionnel. Oui, il donne 4 références coraniques. Prenant la défense des faibles, exaltant la dignité de l'homme, il est à l'origine de l'humanisme et par son souci de toutes les créatures. Il est aussi de l'écologie. Qu'est-ce que vous croyez ? Il y a tout. L'écologie, l'islam prône la liberté de croyance, le refus de toute contrainte. 256, pas de contrainte en islam, nous dit le Coran. Oui, mais quand on lit les commentateurs, ça, ils ne le disent jamais. Et pas de contrainte en islam, c'est-à-dire vous ne contraindrez jamais un musulman à changer de religion. Vous comprenez ? Ça aussi, je me permets de vous l'indiquer. Une étude ciblée sur ces versets, des versets en Europe et chez les chers médias pour montrer combien tout est bien, tout est beau, tout est joli, il n'y a pas de souci à se faire. Je lui ai consacré aussi une étude particulière dans ce que j'ai commis dans islamologie. Donc, là aussi, écologie, l'islam prône la liberté de croyance et le refus de toute contrainte en plus, et le dialogue pacifique. Le dialogue pacifique, il donne les références. La liberté de pensée et d'opinion. Dans le respect de l'équité et surtout l'acceptation de la vérité, sikh, il prône aussi l'égalité entre tous les humains, à condition qu'ils soient des croyants. Et comme je vous ai expliqué depuis deux mois, les croyants, c'est seulement les musulmans et rien d'autre. Ne croyez pas. Et quand vous entendez un imam dire d'un chrétien « c'est un bon croyant », c'est parce qu'il est en France et qu'il parle aux Français à la télévision française. Hein? Mais entre eux, le croyant, c'est que le musulman. D'ailleurs, pour saluer un non-croyant, c'est pas le même salut. Il y a un musulman qui a réclamé dans une église, au curé de l'église, une salle de prière, parce qu'il dit pour qu'il ne soit pas comme des animaux errants, obligés de prier dans des cabanes. Mais il commence la lettre de sa demande par le salut qui utilisé pour les non-croyants. C'est pas assalamu alaykum wa rahmatullah, pas de miséricorde de Dieu pour les non-croyants. il lui dit que la paix soit avec toi. Et la paix islamique, bien sûr, sous-entend. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qu'il faut comprendre aussi et décrypter. Et on ne décrypte que si on apprend. Hein. Et donc je prêche pour une connaissance beaucoup plus poussée chaque fois de ce qu'est l'islam réellement. Hein. Malheureusement, les journaleux, toujours, quand ils ont lu un livre ici, un livre là, font un article, mais ce sont des notes de lecture. Si un lecteur veut plus, il faut aller plus. Il faut aller suivre des cours, par exemple, en règle, n'est-ce pas? On sait davantage à ce moment-là. Donc, je ne parle pas de moi, puisque je suis à la retraite. Donc, j'ai très peur d'être trop longue ou de vous fatiguer. En tout cas, je voudrais seulement partager avec vous les résultats d'une enquête qu'on m'a envoyée et dont j'ai pris connaissance il y a quelque temps quand même déjà. C'est un sondage, en tout cas avant, pour finir, pardonnez-moi, pour ne pas quand même vous priver de beaucoup, je voudrais vous donner la conclusion de cette déclaration des droits de l'homme en islam. Pour conclure cette publication, donc, la Ligue mondiale islamique déclare qu'elle a voulu réduire bien des malentendus injustifiables en 5 points. Je voudrais quand même vous donner ces 5 points. 1. Si les parts en matière d'héritage sont apparemment inégales, bien que dans 2 cas elles soient égales, c'est parce que la femme n'a jamais à assurer la dette alimentaire à quiconque. C'est toujours l'époux, le fils, le père ou le frère qui en a l'obligation en droit islamique. C'est pourquoi leur part d'héritage est double, manière indirecte d'assurer les principes d'égalité. 2. Si le témoignage de la femme en justice n'a valeur que de moitié, c'est pour mieux garantir l'obligation qu'elle a de témoigner en vérité vu son extrême sensibilité et sa grande impressionnabilité. Voilà ce que dit donc le 3. Si le mari a le monopole de la répudiation, c'est pour compenser le monopole qu'a la femme de recevoir une dot dont elle a le libre usage, l'équilibre des forces est par là rétabli. 4. Si la polygamie est autorisée, c'est dans un cadre limité, pas plus de 4 épouses simultanément, et sous la condition d'équité. Par là même, le statut d'épouse légitime est juridiquement assuré à toutes celles qui, en d'autres sociétés ou religions, sont condamnées à n'être que des amantes ou des maîtresses. Enfin, si le voile fait partie des règles de décence imposées aux femmes du prophète puis à toutes les musulmanes, que l'on sache que l'homme est également invité à la décence, qu'il s'agisse du culte ou de la vie en société. Quant aux châtiments corporels, ils sont dosés et gradués pour le bien de la femme et lui évitent un mal plus grave. Il faut donc voir par là même combien la loi islamique s'est attachée en tout temps et en tout lieu à maintenir une égalité harmonieuse entre l'homme et la femme. Le secrétariat général de l'Organisation de la Conférence de la Ligue mondiale islamique a publié le texte intégral de son projet de déclaration des droits et obligations de l'homme en islam avec un préambule et 31 articles. Ici, je vous ai donné que rapide. Est également publiée une note adressée aux organismes internationaux intéressés concernant la loi islamique des droits de l'homme et son application. Cette note qui résume le texte du projet est conclue ainsi. Telle est la loi islamique, parfaite en ses dispositions, efficace en ses injonctions et juste en ses sanctions. Elle est parole de Dieu pour tout soumis à lui. Soumis se dit musulman, musulman. C'est ainsi que est clos ce texte de la déclaration. Alors, je reviens à cette enquête. Noël dure jusque quand ? Encore un peu ? Oui, mais un peu, puis un peu. Donc, le sondage révèle, ce sondage de l'IFOP JDD, publié le 20/09/2016. Le sondage révèle que 28% des musulmans vivant en France ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République et qu'ils s'affirment en marge de la société. Cela s'explique par la nature même de l'islam, qui est avant tout un système politique et légaliste, et ce n'est pas un hasard de voir défiler les islamistes brandissant le Coran et clamant « Le Coran est notre constitution », ça s'est vu beaucoup contre Sissi, souvenez-vous, et en France, quand il y a des marches pour les abus de la police, par exemple. Avec une deuxième variante, l'islam est la solution. Un ministre du régime islamiste de Morsi avait déclaré « L'islam est un système total qui doit régir par des règles d'origine divine la vie de l'individu et de la communauté. » Je ne sais pas s'il me laisse... Noël me laisse, oui. En contrepartie, 46% des sondés se disent sécularisés et totalement laïcs. Retenez bien, 46%, c'est-à-dire le reste, ni sécularisés ni laïcs. Mais même les sécularisés et totalement laïcs. Lorsque la religion occupe une place importante dans leur vie, ils disent que la religion occupe une place importante dans leur vie, même quand ils se disent sécularisés et totalement laïcs. Ce qui laisserait entendre qu'un certain islam peut être compatible avec la République. Seulement, l'enquête de l'IFOP et je lis le problème et enfin, je commente. Et qu'entend-on par séculariser dans ce cas-là ? Le dictionnaire juridique arabe donne « Être sécularisé, c'est faire passer la loi civile avant la loi des textes sacrés. » Là aussi, cela signifie compatibilité d'un certain islam avec la République. Et tout le monde va être content. Mais là aussi, il sera toujours le fait d'un certain nombre de musulmans, donc de individualité. Ce n'est pas un groupe. Donc il ne peut pas être représentatif d'une communauté. Donc jamais de la collectivité. Jamais. Ce sont des individualités. Ces individualités auront une attitude qui respecte les valeurs, les lois et les coutumes de la nation, jusqu'à pouvoir parler de compatibilité totale. Les sécularisés musulmans sont en définitive ceux qui vivront en Occident sans aucune des revendications propres à une terre d'islam. Je veux halal, je veux ceci, et maintenant j'entends ils se marient islamiquement seulement. Ils ne veulent plus aller à la mairie. Surtout qu'ils ont découvert qu'une femme seule, avec enfant, avait plus d'allocations qu'une femme mariée. Donc, j'ai vu le cas. Donc, ils ne chercheront pas à imposer à l'Occident leur modèle politico-religieux. Au final, ils se rapprocheront du modèle français et occidental des terres d'accueil. Toutefois, le sondage révèle également que les 46% dits sécularisés et totalement laïcs ne renoncent pas pour autant aux marqueurs identitaires communautaristes islamiques. Et voilà ce que donne aussi toujours cette enquête, c'est extraordinaire. De ces 46%, 30% sont pour le port du hijab, le foulard, plus que le foulard. Le hijab, c'est la chose qui descend. 80% toujours de cela exigent des menus halal à la cantine scolaire pour leurs enfants. Ils s'appellent toujours sécularisés et laïcs. Ce qui fait tomber, au mieux, je calcule, en supposant que les partisans du hijab se confondent avec les demandeurs de menus halal, ne s'ajoutent pas à eux 9,2% des musulmans de France qui sont réellement sécularisés. Sur les 46%. Je ne parle pas des restes. Donc, enfin, 67% de ceux qui ne vont jamais à la mosquée sont néanmoins pour les menus halal dans les cantines. Preuve irréfutable du caractère sociopolitique des revendications communautaires. Je vais arrêter ici. Il ne faut pas abuser de Noël. Vous voulez d'autres chiffres ?
Non, ça va aller.
Ça va aller ? Oui ou non ?
Ça va aller jusqu'à 22h.
Ah bon, d'accord. C'est bon. 9 minutes. Non. Jésus est généreux ce soir. Donc, l'enquête révèle aussi l'existence d'une troisième catégorie, et oui, que l'IFOP appelle Islamic Pride. Islamic Pride, fier de l'islam, si on veut. Ils sont 25% quand même du panel et se définissent avant tout comme musulmans et revendiquent l'expression de leur foi dans l'espace public, mais rejettent le niqab et la polygamie. L'enquête ajoute que les Islamic Pride respectent la laïcité et les lois de la République. L'on peut se demander si ces déclarations sont vraiment laïco-compatibles, sachant que l'expression de la foi dans l'espace public peut inclure l'exigence de traitements hospitaliers spécifiques, d'horaires particuliers dans les piscines, d'espaces à part dans les cimetières. Donc, on joue sur le lexique. En France, deux catégories sont en présence, le peuple français et le peuple islamique composé des ultras, de l'Islamic Pride et d'une partie des prétendus sécularisés. Ils ont des maîtres à penser qui s'appellent, selon les cas, Tariq Ramadan, Tariq Obrou, Dalil Boubaker, Anwar Kbibesh, directeur du CFCM, Ammar Lasfar, UOIF, pour ses maîtres à penser, la liberté religieuse n'est pas un bien en soi. Elle ne l'est que de manière temporaire, c'est une citation, dans la mesure où elle permet la pratique et la consolidation de l'islam. Je répète, c'est une citation. Pour ses maîtres à penser, la liberté religieuse n'est pas un bien en soi. Elle ne l'est que de manière temporaire, dans la mesure où elle permet la pratique et la consolidation de l'islam. Ceci même est cité chez Sainte Caroline Fourest. Donc, les ultras et les Islamic Pride représentent, selon ce sondage, plus de 50% des musulmans. On est d'accord. Le risque n'est-il pas alors d'unir autour d'eux la majorité des musulmans contre la France? On pose la question. En effet, le rapport des musulmans au Coran, que nous avons étudié le mois dernier, dicté en une descente concrète du ciel, immuable, intouchable, car on ne peut reprendre Dieu dans sa parole, Ce rapport a créé un repli dangereux pour tous. Il a interdit toute critique historique et a sclérosé l'islam dans un système global à circuit fermé. Il a figé les musulmans dans un puissant complexe de supériorité, car c'est Dieu lui-même qui les a désignés comme, je cite le Coran, la meilleure communauté qui ait surgi aux hommes. Ils sont le critère du bien et du mal, et à eux revient l'ordre du bien et l'interdiction du mal. Toujours le Coran. L'erreur majeure en Occident, comme en France, naturellement, est de considérer l'islam comme une religion comparable au christianisme. C'est une croyance globale avec un système sociopolitique légaliste, comme vous savez. Je peux. Donc, conformément à sa doctrine, je reviens, puisque nous sommes dans une église, et c'est une commande de, c'est une demande de Monsieur le Chanoine. Donc, il m'autorise à parler de la Sainte Église, si vous permettez. Conformément à sa doctrine, la hiérarchie catholique, au lendemain de l'assassinat du père Hamel, a appelé à la miséricorde et organisé des réunions écuméniques et des messes fraternelles auxquelles les musulmans sont chaleureusement conviés. La hiérarchie catholique a de toute évidence ses bonnes raisons de croire aux vertus de la miséricorde évangélique et de condamner ceux qui voudraient rendre œil pour œil. Nous sommes d'accord, nous, tout chrétien, tout bon chrétien, vit dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas œil pour œil dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, là, entre parenthèses, erreur majeure que commet le croyant, le musulman en général, c'est de mélanger Ancien et Nouveau Testament. Il parle de la Bible. Et quand il veut reprocher quelque chose à l'Ancien Testament, il dit c'est la Bible chez vous, chrétiens, juifs, c'est la même cantine. Hein. Donc, pourtant, malgré le pardon accordé après les meurtres de prêtres et de moines en Algérie en 1994 et en 1996, le terrorisme islamiste n'a cessé de croître en efficacité et en horreur, en Occident et en Orient, où les chrétiens font quotidiennement l'objet d'une féroce persécution, massacre. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Que fait l'Église ? Dépose des fleurs, allume des bougies, célèbre le vivre ensemble, et le pas d'amalgame, n'est manifestement pas, à l'évidence, la meilleure façon de vaincre l'ennemi qui nous fait face. Ils ont publié sur Internet un communiqué, l'œuvre d'Orient, Mgr Gollnisch, et le père Roucou, qui était le patron du SRI, pour mettre en garde les chrétiens de ne pas faire d'amalgame les massacres de Daesh, où les chrétiens sont plus que persécutés. Sont égorgés, eh bien, il ne faut pas mélanger, il dit, le texte, je l'ai quelque part, mais sur l'Internet, on le trouve. Et là, il dit, oui, il ne faut pas oublier, nous dit-il, lui, le pasteur des chrétiens d'Orient, il ne faut pas oublier, ainsi que M. Roucou, pasteur des chrétiens en France, je veux le croire, ne pas mélanger, car Daesh aussi massacre et tue des musulmans. Et alors ? Et surtout, il ne faut pas mélanger parce que cela porterait tort au dialogue islamo-chrétien engagé avec les musulmans de France. Ça, c'est le comble Je réponds à monsieur, à monseigneur Gollnisch. Alors, il me répond que oui, soyez tranquille, que madame Urvois soit tranquille, parce que je suis en, je lui ai dit, vous avez beaucoup rencontré, oui, il rencontre avec des délégations de 30 personnes, il fait des voyages au Liban et en Syrie, c'est vrai. Mais pour faire quoi? Pour dire, je lui ai dit, vous n'avez pas rencontré des pères Zahlaoui, des prêtres qui vivent là-bas, un tel, Monseigneur Sacco, etc. Tout ce monde qui nous disent qu'il ne faut pas mélanger, faites attention. Les musulmans qui sont chez vous là-bas, un jour, ils vous feront ce qu'ils nous font ici, là où nous vivons de tout temps. À plus forte raison chez vous. Il me répond que oui, qu'elle soit tranquille. Oui, je tiens compte, moi, de ce que me disent les supérieurs des chrétiens en Orient. Ça, je ferme la parenthèse. C'est pour vous dire pourquoi les fleurs et les bougies ne me suffisent, ni le vivre ensemble ne suffisent plus. En fait, le moment maintenant est venu de prendre des décisions nécessaires à la restauration d'un Occident qui soit fier de ses valeurs. Nous parlons de valeurs de la République. C'est les valeurs de l'Occident d'abord. C'est incroyable. Face à cette montée de l'islamisation de nos sociétés, eh bien, il faut quand même le dire et clairement. Qu'il est temps de prendre des décisions indispensables pour pour un Occident qui redevient fier de ses valeurs, qui est fier de ses racines judéo-chrétiennes, il n'y a pas de honte, fier de ses traditions. J'apprends qu'on a interdit les crèches. Il a fallu que je vive jusqu'à 2017 pour voir ça. On est en France, fille aînée de l'Église. C'est une aînée vraiment dévergondée, alors vraiment. Donc, ça aussi, les musulmans, vous me direz, tous les musulmans ne sont pas comme. C'est vrai. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Beaucoup. J'ai enseigné à des générations d'étudiants musulmans. Qui sont restés fidèles. Et j'étais très touchée quand la Cato m'a vraiment touchée. Je peux le dire parce que il n'y a pas de. Quand j'ai vu que quand ils ont organisé des mélanges pour mon départ, pour ma retraite, eh bien, beaucoup de jeunes musulmans, anciens élèves miens, ont participé. Il est professeur à l'université X, à machin, truc. Bon, tous, ils ont fait des doctorats, ils ont grandi, ils sont. Vous savez, 30 ans, vous avez le temps de former des gens. Eh bien, ces musulmans-là, eh bien, ils sont chez eux. Mais moi, je dis, les musulmans devront un jour s'attaquer au problème de la réforme de leur religion en vue de veiller à ce que celle-ci puisse devenir une religion comme les autres en Occident. Ni plus ni moins. On ne veut pas les abaisser. Mais pas de traitement spécial. Déjà dans les années 80, si vous vous souvenez, les trois tentations de l'Église, d'Alain Besançon, grand lucide devant l'Éternel. Maintenant, il le prend avec en rigolant. Eh bien, lui, il le disait. En quel honneur, et c'était dans les années 80, pour quelle raison l'Église doit traiter les musulmans de façon particulière? Quel argument? Donc, là aussi, ils puissent, c'est à eux, les musulmans, qui doivent s'attaquer au problème de cette réforme de leur religion et doivent accepter que cette religion soit ramenée au statut de toute religion en Occident, et où il est illusoire et impossible de chercher à créer un islam national. Ça n'existe pas. C'est antinomique. La nature même de l'islam est antinomique avec la nature d'une république et ses valeurs. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai voulu finir par ceci. J'espère que je n'ai pas abusé de Jésus de Noël.